Je vais introduire le message de Raymond par la lecture de la suite des Béatitudes. Si vous avez vos Bibles, ça se trouve dans Matthieu, chapitre 5, et au verset 13. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Et si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils fassent vos œuvres bonnes et glorifient notre Père qui est dans les cieux.
Voilà, bonjour. Je me réjouis d'être avec vous ce matin. Ce défi Miché, mais pour moi tout particulièrement aussi en fait une conclusion au séminaire sur les béatitudes. Je crois d'ailleurs que ce séminaire, point de vue temps, c'est tout à fait providentiel, parce que vous verrez, du moins j'espère que vous le verrez avec moi, à quel point justement les béatitudes et le texte qui suit directement est d'actualité. Et c'est pour ça que je vais, dans mon message ce matin, d'une part faire le lien entre les béatitudes et ce texte qui suit sur le sel et la lumière, et plus particulièrement le rattacher ensuite à la thématique qui nous concerne en ce jour. C'est pour ça que j'ai donné un titre à mon message un peu plus long que d'habitude. Il y en a qui se rappellent le titre de la dernière fois, c'est très bien. Voilà, c'est très bien, vous avez bien écouté. D'ailleurs, j'étais étonné que mon message est même allé jusqu'en Madagascar, si on peut dire, où il avait été entendu, si on peut dire. Mais mon message ce matin, je l'ai intitulé « Pratiques frauduleuses et finances publiques à la lumière de l'Évangile ». Pratiques frauduleuses et finances publiques à la lumière de l'Évangile, et on pourrait rajouter « message de liberté ». Mais je préviens que je vous parle en tant que pasteur et théologien et non pas en tant qu'économiste. Donc, non pas que vous ayez des attentes démesurées, je ne vais pas faire un traité sur l'économie, mais je vais essayer de voir de quelle manière l'Évangile et son message de liberté est un message d'actualité par rapport à ce que nous vivons, à ce que nous entendons, à ce que nous voyons. Et nous avons justement eu le loisir là d'être confrontés à une réalité bien dur quelquefois. En effet, pourquoi le thème de liberté quelque part dans l'arrière-plan? Parce que, comme on le sait, la finance contemporaine se légitime par son attachement à une valeur fondamentale, la liberté. Donc gardez ça quelque part à l'esprit, que justement la notion de liberté est très importante par rapport à la question de la finance. Mais avant de revenir plus particulièrement à cette question-là, j'aimerais justement, d'une part, pour résumer ceux qui étaient là vendredi soir et samedi, et pour ceux qui ne l'étaient pas, faire le lien. Parce que justement, je pense que tout l'intérêt de ce défi Miché, c'est que nous, chrétiens, n'avons pas le droit de rester insensibles par rapport à ce qui se passe dans le monde dans lequel nous sommes. Et que ce n'est pas suffisant de s'accabler sur son sort et de dire « Oh, pauvre de nous » et montrer du doigt. Mais la question beaucoup plus importante, c'est au fond, quelle différence allons-nous faire en tant que chrétiens? Et quelle influence sommes-nous amenés à avoir? Et justement, c'est là que les béatitudes, à mon sens, sont très, 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 très importantes, parce qu'elles nous font le dessin du profil du disciple de Jésus qui aura la possibilité d'être sel de la terre et lumière du monde. Et si vous avez boycotté ce profil, il ne faudra pas s'étonner si au bout du compte, côté sel et côté lumière, on ne va pas aller bien loin. Donc il faut s'arrêter sur ce profil et bien remarquer, c'est là donc mon petit résumé ce matin, c'est que le disciple de Jésus qui exercera une influence durable dans ce monde, il est doux et miséricordieux. Il est conscient de sa pauvreté spirituelle et de sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Il est intègre. Il est attristé par l'injustice, mais aussi il est affamé de justice. Et je crois que les deux vont de pair. Il est artisan de paix, soit, mais cependant il est confronté à l'hostilité. Et c'est pourquoi le disciple de Jésus doit apprendre à gérer ses conflits et l'adversité. Suivre Jésus, je l'ai suggéré hier, ce n'est pas simplement une question d'y trouver son compte. Je veux être béni, Seigneur bénis-moi par-ci, Seigneur bénis-moi par-là. Ce n'est pas simplement une question d'avoir Dieu qui répond à nos besoins même. Parce que quelquefois on a l'impression que pour certains chrétiens, c'est un peu l'attitude, je crois parce que c'est dans mon intérêt. Non, suivre Jésus, ce n'est pas gagner au loto. Plus de problèmes, plus de soucis, plus de conflits. Si nous comprenons les béatitudes, nous voyons qu'en fait la souffrance fait partie du lot du disciple. Suivre Jésus, c'est accepter que Dieu nous confie une mission. Une mission ici-bas. Et donc assumer notre responsabilité pour le monde dans lequel nous vivons. Vous et moi, nous sommes responsables. Nous sommes concernés directement et personnellement. Et quand Jésus dit à ses disciples, et il nous le redit ce matin, « Vous êtes le sel de la terre. » Jésus s'adresse à ses disciples qui forment une communauté de croyants et qui a une mission de la part de Dieu. Et Jésus utilise l'analogie du sel pour montrer que le rôle du chrétien dans ce monde est aussi primordial que celui du sel dans la vie quotidienne. Condiment, agent de conservation ou vertu purifiante, on utilise le sel à bien des égards. Et je devais penser au sel quand justement je lisais la semaine dernière un article dans Le Monde, un article signé par Martin Hirsch, président de l'Agence du service civique, qui avait pour titre « Assainir la vie publique, c'est tout à fait possible ». Et je disais, ben, pour assainir, hein, faut du sel, hein, pour purifier la situation. Et alors je me suis dit, où sommes-nous en tant que chrétiens pour assainir la vie publique? Où est le sel de la terre dont Jésus a parlé à la suite des béatitudes? Et c'est là qu'il faut bien se le dire ce matin, il ne faut pas se tromper de sujet. Que le disciple soit sel de la terre, c'est pour Jésus un fait établi, dont il ne précise pas le comment, non pas un impératif à suivre ou un commandement même à mettre en pratique. La question rhétorique en fait de Jésus souligne toute l'ampleur de la tragédie, c'est que le sel qui n'en a plus ni le goût ni les propriétés, ce n'est plus du sel. Hein, il ne dit pas « soyez du sel », remuez-vous pour devenir du sel. Non, il dit « vous êtes le sel ». C'est-à-dire, si on est disciple de Jésus, on est sel de la terre. C'est un fait. C'est indiscutable. Et l'avertissement de Jésus, c'est justement, c'est qu'un chrétien qui n'est plus agent du salut, si vous voulez bien, dans ce monde, il ne sert plus à rien et on peut donc se passer de lui. Tout comme on jette le sel qui ne sert plus à rien en cuisine. D'ailleurs, Jésus s'attarde plutôt sur les conséquences négatives et ses vertus à mettre en garde ses disciples contre les dangers liés à la perte de saveur. C'est donc pas « êtes-vous sel ou vous n'êtes pas », mais quel genre de sel êtes-vous? Êtes-vous encore un sel qui sert à quelque chose? Ou est-ce que vous êtes du sel bon à jeter? D'ailleurs, j'ai trouvé une citation intéressante de ce prédicateur du siècle dernier, un prédicateur anglais qui s'appelait Martin Lloyd-Jones, vous avez peut-être lu l'un ou l'autre livre qui a été traduit en français, et qui disait « Vous imaginez un petit peu la déchéance pour ceux qui pensaient être les sauveurs de la société et qui n'en sont en fait que les marchepieds. » C'est ce que Jésus dit, si on veut, traduit en langage courant, n'est-ce pas, quand il dit que le sel qui ne sert plus à rien, il est piétiné par les hommes. Quelle tragédie! Justement, qu'est-ce que ça signifie, être un disciple de Jésus? C'est apprendre à être à l'écoute de Jésus. Vous vous rappelez? C'était le sous-titre du séminaire, pour ceux qui étaient là. Apprendre à être à l'écoute de Jésus. Être à l'écoute de Jésus pour le suivre, c'est quoi? Bien, justement, ce n'est plus vivre égoïstement pour nous-mêmes et notre propre intérêt. Mais c'est vivre pour Dieu et pour l'accomplissement de ses desseins. Et ensuite, justement, pour être sûr que ses disciples, qui étaient tout aussi bouchés que nous d'ailleurs, souvent, et qui avaient du mal à comprendre ce qu'il voulait vraiment dire, eh bien, il utilise une deuxième image, celle de la lumière. Et là, pareil, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous pourriez bien être la lumière du monde, ça serait bien si... Non, il dit, vous êtes la lumière du monde. C'est une affirmation, d'ailleurs... Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, c'est encore plus explicite. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » Il ne s'agit pas de se lamenter tout le temps sur les ténèbres dans ce monde. Parce que si on était lumière, eh bien, les lumières font repousser les ténèbres. Et quelquefois, je me demande, c'est pas maintenant la question de savoir si vous êtes une lumière, dans le, comme on l'entend quelquefois, c'est pas une lumière celui-là, on veut dire c'est qu'il n'est pas très doué, c'est pas ça la question. Mais en fond, c'est si la vie de Dieu est en nous, ou bien comment est-ce que les autres le remarquent? Et quand Jésus dit que votre lumière luise, c'est parce qu'il part du principe que vous êtes lumière du monde. Et quand il dit que votre lumière luise, il dit pas soyez une lampe de poche miniature qui s'allume de façon intermittente. Mais ça veut dire que notre vie, notre témoignage, ce que nous disons, ce que nous faisons, eh bien, projette une lumière de manière constante et fait, marque la différence, marque l'espace de vie dans lequel nous vivons, puisque c'est ça le sens du monde. Soyez la lumière du, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. Cela concerne notre condition humaine, n'est-ce pas? Avec les bons et les mauvais côtés, bien sûr, de notre existence. Et Jésus utilise deux paraboles qui nous aident à mieux comprendre la logique de Jésus et toute sa portée. Il parle de la ville qui est sur la montagne pour bien souligner la certitude de la visibilité. Si vous êtes lumière du monde, eh bien vous êtes visible. L'Église n'est pas la société des chrétiens anonymes. Si nous sommes vraiment disciples de Jésus, et pas simplement des chrétiens religieux qui avons notre petit train-train, on est là, on se fait voir, etc. Parce que c'est pas être chrétien, c'est pas justement une question d'accumulation de réunions et d'activités religieuses. C'est notre vie de tous les jours, avec ce qu'elle est faite, justement. Et là où elle nous amène, dans tel lieu ou dans tel autre, on ne change pas de registre. On n'est pas différent. Et de la même manière, la lampe à huile allumée dans une maison, il y a contraste au niveau de l'usage que l'on peut en faire. Il y a le mauvais emploi. Placée sous le boisseau, elle est cachée, elle ne sert à rien. Elle est là, mais personne ne la remarque. Alors que le bon emploi, c'est quand elle est placée sur le chandelier. Là, il y a, encore une fois, mise en évidence. Où est notre évidence? Eh bien, c'est ça la question. Est-ce que nous sommes du genre à être apeurés, à nous lamenter des ténèbres qui sont omniprésentes? Ou est-ce que nous avons cette foi agissante qui fait que notre lumière brille? Pour citer encore une fois Martin Hirsch dans son article, il disait, je cite, « L'opacité est la mère de bien des vices et la tolérance l'attitude la plus coupable. » Et je me demande quelquefois si justement, les chrétiens se sont rendus coupables d'une telle tolérance. En disant, ben, c'est comme ça, hein, on est dans un monde corrompu. On est dans un monde, il y a des pratiques frauduleuses. Et on s'habitue, hein, les affaires en cours, elles passent dans le journal de 20 heures. Elles s'appellent en ce moment Karachi, Betancourt, Mediator, etc. Je t'en passais des meilleurs, on a pris l'habitude. Hein. Mais on ne réagit même plus. C'est tout juste si on se sent concerné. Que votre lumière brille. C'est pas tiens où j'ai mis ma lampe de poche. Le problème c'est que justement on prêche peut-être le dimanche matin que l'évangile est message de liberté, mais où c'est que nous que nous affirmons avoir trouvé en Jésus-Christ. Qu'avons-nous à dire et qu'avons-nous à démontrer face aux ténèbres, face à un monde où liberté rime avec liberté abusée et où finances publiques rime avec liberté désabusée? Où sommes-nous? Parce que s'il est vrai que le principe de liberté est important, dans le monde dans lequel nous vivons, il se focalise de plus en plus sur la seule performance de la rémunération due aux propriétaires ou aux gestionnaires d'argent. Et il semblerait quelquefois que la liberté de circulation des capitaux se fait au détriment de celle des hommes. Où justement nous sommes esclaves de ceux qui devraient nous servir. Nous servir à quoi? Ben, si nous avons bien réfléchi à notre théologie, qui devrait nous aider justement à aider les hommes et les femmes dans nos sociétés à demeurer et à être co-entrepreneurs dans l'œuvre de la création. Il y a de quoi faire dans notre création. Cette création qui soupire à la rédemption. Et ça, c'est l'objectif de Dieu, c'est que toute la création puisse connaître et faire l'expérience du salut. C'est ça notre destinée. Et si nous l'avons compris, si nous l'avons saisi, eh bien nous allons œuvrer dans ce sens-là. Nous n'allons pas fermer les yeux devant la réalité. Nous n'allons pas non plus vivre dans un esprit de crainte vis-à-vis de la réalité. Oh, ce monde, ce péché, ce mal, cette injustice. Comme je l'ai dit hier, dans l'évangile de Matthieu tout particulièrement, il explique le salut presque exclusivement en termes de justice. Celui qui est sauvé, c'est celui qui a fait l'expérience de la justice de Dieu. Et donc c'est celui qui rentre dans une phase de vie nouvelle, par la nouvelle naissance, comme nous le disons bien, pour être une démonstration vivante de justice. Parce qu'il a compris comment la justice de Dieu l'a saisi lui-même dans son mal, dans son péché, dans son injustice, pour faire de lui de quelqu'un qui voit la vie différemment, parce qu'il a reçu la vie de celui qui est l'auteur de la vie. L'évangile de liberté, c'est un évangile de générosité, de solidarité, d'honnêteté et de responsabilité. Est-ce que ça, nous l'avons compris? Et si nous l'avons compris, qui c'est qui le sait? Comment ils vont le savoir? Combien souvent la générosité dans ce monde, elle ne se trouve guère? Car, tout simplement, c'est la philosophie du chacun pour soi. Combien m'est dû, comme je l'ai dit tout à l'heure? La seule performance de la rémunération. Hein? Ça, c'est mon droit, ça, c'est mes dû. D'ailleurs, on le voit même dans les églises évangéliques qui sont omnubilées par l'histoire de la dîme, que presque personne ne donne de toute façon. Mais c'est pas, encore une fois, une façon légaliste de gérer les choses, parce que c'est la générosité que Dieu nous apprend. Et c'est pour ça que quand on entend le témoignage de certains milliardaires chrétiens qui donnaient 90% de leurs revenus et ils vivaient des 10% certainement encore mieux que vous et moi. Mais s'ils avaient été légalistes, ils auraient dit « Moi, je donne mes 10%, j'ai bonne conscience. » Et moi, je suis d'accord avec ce collègue qui a écrit un livre sur la dîme et qui a dit « La dîme, en fait, c'est fait pour donner bonne conscience aux riches et culpabiliser les pauvres. » Parce que c'est la générosité que Dieu nous apprend. Dieu est généreux avec toi et moi. Il nous donne plus que ce dont nous avons vraiment besoin. Et nous, nous sommes mesquins et nous nous étonnons que le monde est mesquin. C'est la générosité que nous devons apprendre, voire réapprendre. Aimer, donner. Et je précise, je ne parle pas seulement d'argent, je parle de son temps, de sa personne, de ses ressources, de son affection, de tout ce qui est notre être, n'est-ce pas? Et qu'on ne compte pas, tiens, est-ce que, ça y est, j'ai donné suffisamment? Je crois que la vie chrétienne, c'est un don de soi. Pas qu'à Dieu, mais aussi à son prochain, aux autres. Mais c'est un style de vie, c'est comme l'adoration. Hein, on fait des séminaires sur l'adoration, style de vie. On en avait un dans notre église il n'y a pas longtemps, hein, qui est venu d'Australie spécialement pour nous parler de l'adoration, style de vie. Mais tous ceux qui doivent encore venir pour nous le dire et pour qu'on le comprenne. Ce qu'est l'évangile de liberté, c'est un évangile de solidarité. Quand je vois la situation de la, de la crise en Grèce, je parle avec des chrétiens, là où je vis, en Angleterre, eh bien, ils se disent, j'entends des discours du genre, bah, ils sont mis dans le pétrin eux-mêmes, ils ont qu'à voir comment ils en sortent. Des chrétiens qui parlent comme ça, qui pensent comme ça. Alors que j'entends notre président qui parle de la Grèce, et un journaliste qui lui demande, est-ce qu'on va les laisser tomber? Et Sarkozy qui répond, l'Union européenne, c'est comme une famille où le plus faible, on le soutient, on ne le laisse pas tomber. Un chrétien n'aurait pas pu parler mieux que ça. Mais quelquefois, les chrétiens pensent comme le monde, ils ont l'esprit du monde, un esprit de dispute d'ailleurs. Dernièrement, je parlais du ministère que Dieu m'avait donné pour l'Europe. Dès que j'ai prononcé le mot Europe, elle a fait un bond en arrière. Elle m'a dit, surtout ne me parlez pas de l'Europe. Elle avait une haine farouche de l'Union européenne. Quel sentiment nous anime? Est-ce que ce sont des sentiments de générosité, des sentiments de solidarité? Je crois que justement, une des plus belles choses qui s'est faite en Europe, d'ailleurs c'est unique le projet européen, ça n'existe nulle part comme ça dans le monde, c'est que justement, eh bien, il y a cet esprit de solidarité, c'est d'aider les pays les plus faibles. Bien sûr, ça ce n'est pas une entreprise facile, hein, c'est un casse-tête. Et le fait même que nos responsables politiques aient accepté de relever ce défi, eh bien, c'est remarquable. Ils auraient besoin du soutien des chrétiens qui prient pour ces responsables, qui sont derrière eux de toutes les manières possibles. Je lisais dernièrement un livre chrétien sur les finances et il posait une question que j'ai trouvée justement très intéressante, j'aimerais vous la citer, qui disait « La liberté du détenteur d'argent est-elle légitime si elle s'affranchit d'un principe de juste solidarité dans l'usage de l'argent. » Je répète. La liberté du détenteur d'argent est-elle légitime si elle s'affranchit d'un principe de juste solidarité dans l'usage de l'argent? Notre réponse devrait être clairement non. Non, parce que l'argent devient une arme destructrice lorsqu'elle dispense ses détenteurs de toute réciprocité de service. Et nous avons fait mention ce matin de certains de ces services, n'est-ce pas? La protection des plus faibles, l'épaulement spirituel, l'impulsion du développement, recherche d'équité de partage dans la création de la valeur économique, etc. etc. Ça devrait être inscrit dans la Constitution, j'allais le dire, que justement, eh bien, c'est qu'il y a devoir de solidarité envers le plus faible. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile. Ça, c'est la vision que Dieu veut mettre dans nos cœurs et dans nos vies. C'est la générosité, c'est la solidarité, mais c'est l'honnêteté. Nous avons ce matin évoqué les paradis fiscaux et tous les impôts impayés. Et ça me rappelle ce que Jésus avait dit en son temps, ce qui est dû à César doit être rendu à César. Je crois qu'il faut aussi qu'il y ait une réflexion chrétienne sur l'impôt. Ça va se faire souvent, je crois, hein. Il faut pas l'oublier que l'impôt demeure un principe fédérateur des communautés de vie que constituent nos États et nos nations. Il faut aussi réaliser que l'impôt n'est pas seulement la condition nécessaire de leur survie, mais il est aussi la ressource mutualisée indispensable à leur mission pour le bien commun. Et ça devrait donc avoir tout notre soutien, ça avait celui de Jésus. Donc aussi le nous. Nous devons comprendre que l'impôt, c'est une bonne chose. Et que les chrétiens devraient être exemplaires dans leur honnêteté face à ce défi qui ne concerne pas que les autres. Mais j'aimerais dire que un des problèmes peut-être les plus graves que nous avons, c'est au niveau de la responsabilité. Parce que nous avons cette situation auquel nous sommes confrontés dans notre société. C'est que d'un côté, nous avons l'anonymat grandissant de l'argent. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas où ça va. Hein. Cet anonymat grandissant de l'argent. Et d'un autre côté, ce qui n'est pas fait pour arranger les choses, nous avons l'irresponsabilité morale de ces gestionnaires. qui justement donne sa pleine actualité à la question de l'usage de l'argent, comme ça a été évoqué ce matin, je n'aimerais pas simplement me répéter. Et je crois que là, justement, pour reprendre par exemple le cas de la Grèce, et il est de plus en plus question maintenant de remettre jusqu'à 50% de la dette grecque, mais je crois que justement, eh bien c'est vrai, c'est pas suffisant de dire oui, ben ils ont eu des politiciens corrompus, ils sont coupables de la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais je crois que justement, la chance de la Grèce, c'était de faire partie de l'Union européenne qui les rend responsables. C'est-à-dire, au fond, c'est un principe de base, c'est qu'on a des comptes à rendre. Il ne s'agit pas simplement d'aider comme ça, de dire, ouais, on est gentil, hein, on va donner un coup de main. Non, et c'est de la même manière, c'est pas éradiquer la pauvreté, ça c'est bien aussi. Mais je veux dire, ces pays pauvres aussi, pour ne maintenant pas les citer, ont des problèmes graves de corruption. Et je veux dire, le tout ne sera pas de dire, voilà, maintenant on paye l'addition. Si on n'apprend pas ces pays, ces nations, les responsables politiques à rendre des comptes, eh bien, sans être prophète, je vous dis, ben la veille, on est nouveau à la case départ. On repart avec les mêmes problèmes. D'ailleurs, je veux dire, ça c'est humain, n'est-ce pas? Parce que dans l'Église, on a les mêmes problèmes. Dans l'Église, hommes ou femmes qui souhaitent avoir des responsabilités, mais qui ne veulent pas rendre compte à personne, sont des sources de problèmes garantis. Parce que c'est humain, c'est comme ça. Dès qu'on veut en faire à sa tête, et qu'on veut, n'est-ce pas, passer comme ça, faire du forcing, pour faire valoir ses droits, et bien l'abus du pouvoir n'est jamais bien loin. La responsabilité est une dimension essentielle de la liberté. Si nous voulons éviter que liberté soit abusée, que les finances soient désabusées, eh bien, il nous faut souligner au gros feutre rouge que la responsabilité est et doit être une dimension essentielle de la liberté. D'ailleurs, que ce soit au niveau de l'engagement personnel ou des engagements collectifs. Il nous faut apprendre à être responsable, et là encore une fois, les chrétiens ne pourront pas être sur le devant si ces leçons, ils ne les ont pas apprises eux-mêmes. C'est ce que je disais samedi matin, en parlant de l'Europe. Je disais, tant qu'on s'habitue à avoir des églises divisées, on ne va pas avoir beaucoup de crédibilité pour se faire l'avocat d'une église, d'une Europe unie. Si on n'a pas à cœur la prière de Jésus dans Jean 17 pour l'unité du corps de Christ, et qu'on continue à se faire les farouches défenseurs de la mentalité de clocher, on ne risque pas d'être un ambassadeur de Christ, un artisan de paix, pour qu'en tant que chrétien des différents horizons, on se rassemble, on se retrouve, et on comprend enfin, s'il te plaît Seigneur, qu'il y a plus qui nous réunit que ce qui nous divise. Mais là aussi, il faut apprendre à se repentir, à laisser l'orgueil de côté et à avoir des ambitions propres qui ne sont pas les ambitions du royaume de Dieu. Voilà, merci. C'était pour être sûr que vous avez bien écouté. C'est la réplique habituelle du prédicateur quand il voit qu'il a fait une gaffe. Mais le temps passe et ne revient plus. Et je sais que vous avez encore une annonce à faire pour les signatures, où ça va venir. J'aimerais en tout cas vous laisser un appel à la prière qui m'a été inspiré par une autre phrase de Martin Hirsch dans son article. Pour dire qu'au fond, il faut, chers frères et sœurs, que vous vous intéressiez à ce qui se passe dans le monde dans lequel vous vivez. Il faut que vous soyez à l'écoute, que vous vous informez, et vous n'avez aucune excuse depuis que la révolution informatique, l'accès à l'Internet, on a même de l'information à outrance. Il faut faire le tri d'ailleurs. Hein. Mais pour citer Martin Hirsch, qui conclut son article en se référant aux élections présidentielles, Et là, encore une fois, ça me, quelque part, ça me chatouille toujours quand les chrétiens pensent qu'ils sont de bons citoyens parce qu'ils vont aux urnes. Ça s'arrête. Ça commence là et ça s'arrête là. Bien, allez voter, mais si c'est tout, si votre notion de citoyen français, c'est juste passer aux urnes, je dirais que c'est vraiment une conception très atrophiée de votre conception du citoyen. Dans ce cas-là, si c'est le cas, il faudra que je revienne vous faire un séminaire sur qu'est-ce que c'est d'être un citoyen chrétien. Que ce soit un citoyen français ou citoyen européen d'ailleurs. Parce que là, je suis sûr de ne pas me tromper en disant qu'il n'y en a certainement pas un seul ici qui, depuis 1992, depuis que nous sommes des citoyens européens, qui s'est posé la question, mais pour moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement parce qu'on n'en a que faire, ça ne nous intéresse pas. Et on croit qu'on a fait une montagne quand on est allé aux urnes. Parce que finalement, voter, qui est un droit, est un devoir, c'est simplement ponctuel. De la même manière, si le défi de la pauvreté et le défi des pratiques frauduleuses des finances publiques, c'est quelque chose qui vous intéresse seulement un dimanche par année, eh bien, c'est vraiment... c'est douloureux. C'est vraiment, ce serait, quelle tragédie ce serait. Si c'est un dimanche par an que ça vous intéresse, hein, de la même manière que Jésus est venu dans ce monde, j'espère que ce n'est pas qu'à Noël que ça vous intéresse. C'est pareil un petit peu. Je veux dire, il y a des dates dans le calendrier qui sont faites pour nous rafraîchir la mémoire, et c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul jour de l'année où ça nous intéresse. Donc si ce que nous entendons, ça ne change pas vos vies, c'est que soit nous n'avons pas écouté ou nous n'avons rien compris. De la même manière, je suis venu dans cet esprit faire ce séminaire sur les béatitudes en espérant que ce que nous pouvons partager ensemble pendant ces quelques jours, ces quelques séances réduites, ça va vous interpeller et vous permettre de faire votre propre diagnostic à lumière du baromètre des évangiles, où c'est que vous en êtes en tant que disciple. Qu'est-ce que vous avez vraiment compris ? Et donc je cite Martin Hirsch pour en conclure, d'habitude c'est la Bible qu'on cite, mais ce coup-ci c'est Martin Hirsch, pour dire que je suis vraiment un pasteur et un théologien un peu orthodoxe. Il dit, en 2007, le pacte qu'ont signé les candidats était écologique. En 2012, il faudra un pacte de morale publique. Un peu moins de complaisance, ce n'est pas forcément un excès d'intransigeance. Je crois que ça, on pourrait vraiment réfléchir là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On discuterait après vous, une fois que je suis parti. Moi, je reprends mon avion demain matin et vous pourrez voir entre vous. Mais je crois que là, il y a vraiment matière à réflexion. En tant que chrétien, se sentir concerné par la vie publique. Et de ne pas penser que tant qu'il n'y aura pas le jour de l'élection présidentielle, premier tour en 2012, avant ça, je ne me sens pas vraiment concerné. Non, parce que il faudrait que la préparation des élections présidentielles, ce n'est pas seulement une chose qui concerne les partis politiques. Il faudrait aussi que l'Église de Jésus-Christ, qui devrait se réveiller de temps en temps et se rappeler la parole de Jésus, que votre lumière luise. Eh bien, que votre lumière luise sur la vie de votre pays, la vie publique, dont la dimension politique est une des parties, c'est pas une des dimensions. Et que donc, que vous priez à ce sujet, mais aussi que vous en parliez, que vous discutez. Vous avez des échanges, des sessions, de groupes, où vous voyez, ensemble, vous vous réunissez, vous en parlez, vous avez une façon mûre et intelligente eh bien, de faire face et de relever les défis. Et ensuite, bien sûr, c'est aux questions de faire passer aux instances qui peuvent être votre dénomination sur le plan national, hein, qui a une voix, que ce soit au niveau de la CNEF ou d'autres instances, faire passer ce qui se passe au niveau de la base. Parce que moi, je suis toujours encore quelqu'un qui pense que c'est à la base qu'il faut que ça bouge d'abord. Parce que c'est bien gentil d'avoir les grandes instances, mais si on attend qu'eux, ils fassent tout, c'est le monde à l'envers. Parce que l'Église, c'est la base. Eux, ils ne font que vous représenter. Mais ça veut dire que vous devez vous exprimer, vous devez bouger, vous devez réaliser, vous avez votre mot à dire. Ce que vous pensez, c'est important, et ce que vous dites, c'est important. Donc, pensez juste et dites juste, pour faire juste. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop dérangé ce matin, dans votre façon de faire et de penser. Mais Vous l'aurez bien compris, j'espère, il y a du pain sur la planche. Alors, vous êtes le sel de la terre. Alors, comprenez bien, vous êtes la lumière du monde. Alors, s'il vous plaît, dans le nom de Jésus, que votre lumière brille. Amen.